France Inter,
franceinter.com.
Je ne regrette que vous, et j'espère vous revoir bientôt dans l'éternité. Louis XIV, le jour de sa mort, à Madame de Maintenon. D'histoire. Dans la longue liste des favorites des rois de France, Madame de Maintenon occupe une place à part. Jamais, depuis Agnès Sorel jusqu'à Madame du Barry, on a vu un destin aussi singulier. Née en prison, abandonnée par ses parents, mariée à un infirme, l'écrivain Scarron, elle se retrouvait veuve et dans la misère à 24 ans, et personne n'aurait plus jamais entendu parler d'elle si elle n'était pas devenue une des nombreuses maîtresses de Louis XIV. Mais contrairement aux autres, elle eut bientôt tant de pouvoir sur lui qu'après la mort de la reine, Louis XIV en fit secrètement sa femme. Jamais, jusque-là, aucun roi n'avait osé épouser une favorite, et jamais en France une favorite ne s'était élevée aussi haut que Madame de Maintenon.
Je vous épouse, puisqu'il n'y a pas d'autre manière pour vous garder.
Mais que dites-vous ? Mais sire, comment une telle chose serait-elle possible ? Le plus grand roi du monde peut-il épouser la veuve de Monsieur Scarron ?
C'est moi qui fais défiler les noblesses. Il est très raisonnable, à 44 ans, de faire un mariage d'amour. Vous, Louis Dieudonné.
Dans la nuit du 9 au 10 octobre 1683, l'archevêque de Paris unit donc, oui, en présence de rares témoins, le roi Louis XIV à Françoise d'Aubigné.
Je vous donne cet anneau en signe du mariage que nous contractons.
Je demeurai dans une sorte de stupeur jusqu'à la dernière bénédiction, où je me dis tout à coup que je ne pourrais pas monter plus haut.
Éric Le Nabour, bonjour.
Bonjour.
C'était un extrait du très beau film L'Allée du Roi, le mariage secret de Louis XIV avec Madame de Maintenon, dont vous venez d'écrire la biographie chez Pygmalion. L'histoire vraiment d'un destin tout à fait extraordinaire, puisque cette femme, mariée secrètement à Louis XIV, eh bien, elle est née en prison.
Oui, elle est née en prison dans la mesure où son père était en prison à l'époque, puisque c'est la fille de Constant d'Aubigné, la petite fille d'Agrippa d'Aubigné, célèbre auteur des Tragiques.
Protestant.
Et donc, son père avait été arrêté parce que c'était un ruffian absolument épouvantable, qui avait même d'ailleurs un meurtre sur la conscience. Donc, comme sa mère venait visiter son mari en prison, eh bien, elle a accouché en prison. Et c'est une destinée qui commençait quand même assez singulière jusqu'à se terminer à Versailles.
Et qui s'est continué aussi de manière assez tragique, hein, l'enfance de la future Madame de Maintenon, puisqu'elle s'appelle d'abord Françoise d'Aubigné, hein, est assez pathétique. Alors, je résume, avec son père qui est nommé, après avoir été libéré, qui est nommé gouverneur aux Antilles, elle s'en va avec son père et sa mère, puis son père abandonne les deux femmes à elles-mêmes, elle rentre en France, la mère n'a plus aucun moyen pour faire vivre sa fille, qui est confiée à plusieurs femmes famille d'accueil, dont l'une d'ailleurs, Madame de Neuillant, fait en sorte que, justement, la petite Françoise d'Aubigné abjure la religion protestante.
Oui, c'est-à-dire que Madame de Neuillant, qui était une lointaine parente, d'ailleurs, a recueilli la future Madame de Maintenon, mais c'était une parente assez froide et qui n'avait qu'une idée en tête, c'était de soustraire cette filleule aux influences protestantes qu'elle avait connues quand elle était enfant. Donc on l'a placée dans des couvents, couvent d'Ursuline, à Niort, puis après à Paris, et finalement on a réussi à lui faire abjurer le protestantisme. Sans rentrer dans les détails, d'ailleurs, il n'y avait même pas besoin d'abjuration. Donc on lui a fait renouveler ses vœux de baptême, et puis elle est redevenue catholique officiellement.
C'est un peu compliqué, mais enfin, oui. C'est assez triste. Elle ne voit plus son père est mort entre-temps.
Elle est complètement coupée de sa famille.
Elle est coupée de sa famille, entourée donc sous tutelle de cette femme qui n'est pas très brillante, d'après ce que vous en écrivez. Et alors qu'il se débarrasse justement de la jeune Françoise d'Aubigné, elle a à peine 16 ans, en lui faisant rencontrer, et même en la faisant se marier avec un homme qui avait 25 ans de plus qu'elle, un infirme, l'écrivain Scarron.
Sans parents et sans dot, il n'y a aucune probabilité qu'aucun homme ne vous demande en mariage et qu'aucun couvent ne vous accepte.
Il ne vous sert à rien, ma pauvre enfant, d'avoir d'aussi beaux yeux et autant d'esprit. Vous ne pouvez que vous lancer dans la galanterie ou vous faire domestique.
Tu dis que vous me ferez toujours pleurer?
Pour mon repos, je vous fais l'offre de vous doter pour que vous puissiez entrer en religion ou bien ça vous épouser moi-même.
La cérémonie fut célébrée dans le petit oratoire de l'hôtel de Troyes.
Je vous donne cet anneau en signe du mariage que nous contractons.
Je sus par la suite que le matin de son mariage, Scarron avait dit « Je ne lui ferai pas de sottises, mais je lui en apprendrai beaucoup. »
C'est vrai, hein, la phrase que l'on vient d'entendre, vous avez vu opiner du chef, Éric Le Dabour.
Oui, parce que c'est une phrase amusante. Il faut dire que Scarron avait un humour fou et que c'était un personnage extrêmement intelligent.
Mais alors, vraiment un remède à l'amour. Hein,
alors, un remède contre l'amour. Bon, il était cul-de-jatte. Il vivait dans une petite caisse qui avait été spécialement aménagée pour lui. C'était quelqu'un qui était laid, bourré de tics. Enfin, bon, je veux dire, il avait tout, surtout pour déplaire à une jeune fille qui, à l'époque, avait 16 ans. Madame de Noyon s'en est débarrassée quand elle a vu l'intérêt que Scarron portait à Françoise, et elle-même avait dit d'ailleurs « je préfère l'épouser qu'un couvent », parce que de toute façon, sa destinée, c'était très vite de rentrer dans un couvent et de s'y enterrer. Elle n'avait pas du tout l'intention de mener une vie religieuse. Donc, entre la peste et le choléra, elle a choisi Scarron. Mmh. En même temps, ce mariage n'a pas quand même été inutile pour elle, dans la mesure où il lui a mis un petit peu le pied à l'étrier, en lui faisant rencontrer très jeune un petit peu tous les beaux esprits de Paris qui venaient dans son hôtel, parce que Scarron avait une petite cour, il était réputé, il s'était fait une très grande réputation d'ailleurs de pamphlétaire contre Mazarin.
Oui, c'est lui, beaucoup de mazarinades, bon, comme on disait.
Énormément de mazarinades.
Mais alors avec un langage
terrible, ordurier. Ordurier, oui, tout à fait. On serait incapable aujourd'hui d'écrire des choses pareilles sans tomber sous le coup de la loi. Mmh. Et toutes les fréquentations que la future madame de Maintenon a eues par son intermédiaire, en fait, beaucoup lui sont restés fidèles. Et c'est grâce à ces relations qu'elle a pu aussi, après la mort de Scarron, rentrer dans d'autres milieux.
8 ans de mariage quand même, avec un infirme qui en plus ouais. avait des exigences sexuelles, hein, c'était oui. c'est un obsédé quasiment, disons-le, et forcément qu'elle était obligée de satisfaire. Alors là, elle découvre une forme d'amour un peu particulier qui n'est pas un amour partagé.
Bah, je crois que le début de la vie sexuelle de Françoise d'Aubigné a dû être proprement épouvantable, surtout je dis, quand on songe que lui, il a 42 ans et elle en a 16. Donc c'était vraiment commencer sa vie, en tout cas de cette façon-là, plus que désagréable, et je pense qu'il en est resté des traces par la suite. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr du tout que la vie sexuelle de Madame de Maintenon par la suite ait été très épanouie, dans la mesure où le démarrage avait quand même été très pénible.
C'est vraiment en plus une espèce de domestique pour lui. Elle doit s'occuper de lui constamment. Effectivement, il ne peut rien faire, il ne peut pas s'habiller, il ne peut pas se laver. Elle a mené une vie, elle continue de mener une vie vraiment épouvantable.
C'est une vie pas seulement d'épouse, c'est une vie de gestionnaire parce qu'elle s'occupe de ses affaires, c'est une vie d'infirmière, de consolatrice, de maîtresse, enfin je veux dire, elle joue de multiples rôles à un âge où généralement les jeunes filles pensent au grand amour et envisagent éventuellement de faire un mariage, mais un mariage heureux, et elle est vraiment à son service jour et nuit, quoi. C'est un esclavage, elle a vécu un esclavage épouvantable.
Et alors ça va être pas pire, mais enfin presque après, puisque il meurt en 1660, elle a 24 ans et elle se retrouve dans la misère. Scarron, au fond, ne lui a laissé que des dettes,
Éric Le Dabour. Oui, il lui a laissé que des dettes et elle s'est retrouvée dans une situation où en plus il y avait une belle-mère de Scarron, mais d'un deuxième lit, qui a porté plainte contre elle pour essayer de récupérer une partie de l'héritage. Enfin, elle s'est retrouvée mêlée à tous ces démêlés judiciaires là pendant des années, et donc elle s'est retrouvée sans rien, avec effectivement des dettes, et obligée donc de trouver une solution pour subvenir à ses besoins et vivre.
et commence alors pour elle une vie qui est obscure, hein, plutôt obscure, pendant une quinzaine d'années, jusqu'à ce qu'en 1675, elle devienne une des favorites de Louis XIV.
J'ai été surpris de vous voir dans le parc à une heure si matinale.
Il est vrai que ce n'est pas l'heure habituelle des promenades.
Le sourire vous va bien. Vous a-t-on dit qu'on ne peut demeurer plus d'une heure dans ce lieu sans être glacé? En ferons-nous l'expérience? Ou irons-nous causer dans quelque autre endroit?
J'aime cette grotte. J'aime cette eau. Elle est profonde et calme.
Elle vous ressemble.
Fait-il froid? Je ne le sens pas.
Vous tremblez, madame.
Je sus en cet instant que j'étais perdue et que sans doute je l'avais bien voulu.
Vous entendez le triomphe d'Iris de Jean-Nicolas Clérambeau, qui était maître de musique de Madame de Maintenon, un extrait de la marche des bergers et des bergères. Rassemblons-nous dans ces beaux lieux, formons d'aimables jeux. Alors le jeu auquel se livrent Louis XIV et Madame de Maintenon, eh bien il s'est passé en 1675, elle devient sa favorite, mais en fait Louis XIV la connaissait déjà depuis 5 ou 6 ans. Éric Le Nabour.
Oui, parce que Madame de Maintenon a été, à la suite de la mort de Scarron, dans une situation extrêmement difficile, mais elle avait les relations de Scarron. Et ces relations l'ont mis à un moment donné en contact avec la favorite de Louis XIV en titre, qui était Madame de Montespan, et dont il avait eu plusieurs enfants, qui étaient donc des bâtards, et il fallait trouver quelqu'un pour s'occuper de ses enfants. Or, Madame de Montespan avait entendu parler de la veuve Scarron, qui traînait derrière elle une réputation, je dirais pas de sainteté, mais quasiment, et donc elle s'est dit que c'était une femme qui pourrait justement remplir ce rôle de gouvernante, ce à quoi elle s'est attachée, et en s'attachant aux enfants d'ailleurs énormément.
Qui sont donc les enfants du roi. Hein,
qui sont ça, les enfants du roi, et elle a élevé les enfants du roi avant de devenir la maîtresse du roi.
Au fond, Madame de Montespan ne sait pas ce qu'elle fait là, puisque ce sera bientôt sa rivale, Madame de Maintenon. Au fond, elle fait entrer le loup dans la bergerie, si on peut dire que la cour c'était une bergerie.
Tout à fait. C'est le problème de Madame de Montespan est que c'était une femme extrêmement orgueilleuse et qui était persuadée que de toute façon elle ne pouvait pas avoir de rival dans le cœur de Louis XIV et aussi dans son lit, en tout cas des rivales passagères, mais pas de rivales très sérieuses. Et là, elle n'a pas fait attention à Madame de Maintenon parce qu'elle pensait que jamais le problème ne se poserait.
Alors au début,
elle a commis une erreur tragique d'ailleurs.
Au début, le rôle de gouvernante des enfants du roi et de Madame de Montespan, eh bien évidemment, on le cache. Et Madame de Maintenon, on la voit pas beaucoup. Elle est d'abord à Vaugirard. Et puis alors, quand le roi reconnaît justement ses enfants légitimes, les enfants qu'il a eus avec Madame de Montespan, là, elle arrive à la cour qui à l'époque était installée à Saint-Germain. Mmh. Et alors, il y a des dialogues en permanence. Et en fait, il la voit très souvent. Il commence à lui faire la cour.
C'est-à-dire qu'en fait, il passait de temps en temps même à Vaugirard voir ses enfants, et au départ, il ne s'est pas vraiment intéressé à Madame de Maintenon, et puis le dialogue aidant, il a commencé à s'apercevoir que cette femme avait beaucoup d'esprit, qu'elle était intelligente, qu'elle était belle aussi, parce qu'il faut bien le dire. Et donc, il y a une curieuse relation qui s'est instaurée entre eux, qui a duré pendant des années, avant que le problème de la relation intime se pose. Mais je crois qu'elle a réussi à séduire Louis XIV par son état d'esprit, par aussi une certaine gaieté, et que Louis XIV se reposait à chaque fois qu'il la voyait.
Et puis peut-être parce qu'elle lui résistait justement, ce qui n'a pas dû arriver très souvent à Louis XIV.
C'est sûrement un facteur qui a joué aussi, parce que je pense qu'elle avait déjà une petite idée derrière la tête, elle l'a eu assez rapidement, et elle ne voulait pas devenir une énième favorite royale, une énième maîtresse royale. Elle avait d'autres ambitions.
En tout cas, il s'intéresse suffisamment à elle pour lui donner en 1674 un château, un titre de marquise et le nom qui sera désormais le sien pour l'histoire.
Je vous sais un gré infini de toutes les choses que vous faites pour mon service, Madame de Maintenon.
Il m'avait nommée Madame de Maintenon. Jamais en si peu de mots offrit-on une revanche plus éclatante à une femme humiliée. D'un trait, il avait supprimé ce pauvre scarron et ce passé misérable qui collait à ma peau. Madame de Maintenon, Madame de Maintenon. Déjà la nouvelle courait dans les corridors, les paliers et les salons du château. Je n'avais qu'un seul regret, ne pas pouvoir me jeter publiquement aux pieds du roi pour lui marquer ma reconnaissance. Contrarier cet élan-là me bouleversait d'autant plus que jamais, jusqu'à ce jour, je n'avais éprouvé l'envie de m'agenouiller devant qui que ce soit.
Et c'est ainsi que Françoise d'Aubigné, veuve de Scarron, devenait donc Madame de Maintenon et même Madame de Maintenant, hein, dès lors que la liaison... Elle a commencé quand d'ailleurs, la liaison avec Louis XIV? On ne sait pas très bien.
On ne sait pas très bien.
Ils n'ont pas fait ça dans un salon de Versailles.
Il n'y a pas eu d'annonce publique, donc. C'est une liaison qui a remonté quand même déjà quelques années avant le mariage officieux. Parce que...
Oui, mais là, ce n'est pas le mariage. Là, il en fait, c'est à peu près au même moment qu'au moment justement où il l'a fait marquise.
Oui, tout à fait,
il lui achète un château, hein, Maintenon, justement, lui donne ce titre de marquise, hein, s'il vous plaît. Et puis alors là, elle commence à être plutôt mal vue quand même à la cour.
C'est-à-dire, je pense aussi que le fait qu'elle soit devenue marquise de Maintenon, elle s'est sentie aussi redevable vis-à-vis de Louis XIV et que peut-être ça a précipité la liaison. Donc on est sûrement à peu près à la même époque, d'après ce qu'on peut savoir. Évidemment, cette femme qui devient une maîtresse royale, on s'en méfie sans s'en méfier, puisqu'elle n'est pas maîtresse en titre, elle n'a pas la position à la cour de Madame de Montespan. Et d'ailleurs, beaucoup de personnages de la cour se sont dit à ce moment-là, c'est une histoire qui ne va pas durer. Ça aura un temps, et maintenant que de toute façon qu'elle lui a cédé, Louis XIV n'étant pas un grand sentimental, il va s'en détacher très vite. Et c'est là où ils ont commis une erreur de jugement terrible. Oui.
Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, quand même, bon, Louis XIV, ça va faire un drôle de ménage, parce que d'une part, il y a quand même la femme de Louis XIV, il y a Marie-Thérèse qui est reine, il y a Madame de Montespan, il va y avoir quelques autres aventures, hein, Mademoiselle de Fontange, c'est un mariage à 3 ou 4 ou 5, et tout le monde sait que, en même temps qu'il continue d'honorer Madame de Montespan, parce qu'il continue de lui faire des enfants, il y a Madame de Maintenon, la reine dans tout ça d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle devient?
La reine, elle, il continue d'avoir des relations intimes aussi avec la reine. Il en a eu quasiment jusqu'au bout. Mais le mariage, lui, avec Madame de Maintenon, se situe quelques mois après la mort de Marie-Thérèse, qui était la reine.
Oui, mais entre-temps, vous montrez bien à quel point, quand même, c'est un sacré panier de crabes, hein, parce que, évidemment, Madame de Montespan commence à regarder celle qu'elle a fait entrer à la cour d'un drôle d'œil. Alors, il y a vraiment... À cette cour, il se passe des choses, il y a un grenouillage pas possible.
Les relations sont très ambiguës, puisque les relations entre Madame de Maintenon et Madame de Montespan ont été tantôt au beau fixe et tantôt détestables, alors que les relations de Madame de Maintenon avec la reine Marie-Thérèse ont été plutôt bonnes. Et probablement parce que Marie-Thérèse en a vu tout de suite l'intérêt, c'était une rivale vis-à-vis de Madame de Montespan qu'elle détestait. Et donc que tous ces gens-là, vous savez, Versailles c'est un immense théâtre, donc chacun a son rôle à jouer. Et chacun a son mauvais jeu de mots, a son étiquette. Et donc, Madame de Maintenon n'avait pas encore le titre de favorite, enfin de maîtresse favorite, mais elle était dans l'ombre de Louis XIV, et c'est ça qui gênait énormément de gens, parce que on lui prêtait d'ailleurs peut-être une influence sur lui qu'elle n'avait pas, mais c'était quelqu'un qu'il séduisait surtout par son esprit, et pas seulement dans un lit. Et ça, c'est beaucoup plus dangereux. Donc, petit à petit, son pouvoir de Madame de Maintenon a grandi. Il y a eu aussi des circonstances qui ont fait, notamment comme l'affaire des poisons où Madame de Montespan s'est retrouvée un petit peu écartée.
Oui, parce que petit à petit, les rivales vont partir.
Voilà.
Madame de Montespan, effectivement, disgraciée à cause d'une affaire sombre de poison auquel elle aurait été mêlée, à laquelle elle aurait été mêlée.
Dont on ne sait même pas d'ailleurs si elle était vraiment mêlée. Ouais. Mais enfin bon, il y avait quand même des indices suffisants pour que Louis XIV prenne ses précautions, puisqu'il est quand même tombé malade à une époque, on n'a jamais su trop bien pour quelle raison, et on a soupçonné que quelqu'un ait voulu l'empoisonner. En même temps, on ne voit pas pourquoi Madame de Montespan aurait voulu l'empoisonner, puisqu'elle aurait tué la poule aux œufs d'or. Donc, toutes ces circonstances-là ont fait aussi que Louis XIV s'est dit, mais finalement, la seule femme en qui je puisse avoir confiance dans mon entourage, c'est elle. Et cette tendresse qu'il avait éprouvée au début pour elle n'a fait que se confirmer et évoluer vers une forme d'amour, si on peut parler d'amour pour Louis XIV, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas un grand sentimental.
Enfin, il semble quand même le devenir. Donc, d'abord, Madame de Montespan est chassée de la cour. Reste encore la reine. La reine meurt donc en 1683. Et après quoi, donc, Louis XIV décide de se marier justement avec Madame de Maintenon, je crois, ce qu'aucun roi n'avait fait avant lui. C'était sa maîtresse officielle. Il y avait des maîtresses, on les affichait, mais jamais on n'épousait une maîtresse. Alors certes, la reine est morte, mais il va l'épouser secrètement, hein, quand même, Éric Le Nabour. C'est un mariage un peu particulier. Pourquoi le secret?
C'est très étrange, parce que quand Marie-Thérèse Espagne est morte, Madame de Montespan était la première à dire « il faut le remarier tout de suite ». Parce que de toute façon, il ne peut pas se passer de femme, donc il faut trouver une reine. Mais elle n'avait pas pensé à Madame de Maintenon. Donc, comme Louis XIV n'avait pas du tout l'intention de se remarier, de faire un mariage officiel avec une princesse étrangère, il a songé à cette union, mais qui évidemment ne pouvait pas être officialisée. Donc, il l'a épousée.
Il est veuf.
Parce que, de toute façon, il ne faut pas oublier une chose, c'est quand on s'est marié, les rois ont des dispenses, mais là, le mariage morganatique se fait avec quelqu'un qui est jugé de conditions inférieures. Ça n'est pas une princesse, Madame de Maintenon. Donc, il ne peut pas l'épouser officiellement, il ne peut pas avoir le titre de reine. Donc, c'est un mariage secret, qui est un mariage, je ne dirais pas que c'est un mariage d'amour, mais enfin, c'est un mariage qui obéit malgré tout davantage à des sentiments qu'à des circonstances politiques ou événementielles. Évidemment, ce mariage-là, personne ne s'y attendait. On peut même supposer que pendant très longtemps, les gens se sont posé la question de savoir s'il y avait bien eu mariage ou pas. Et que le doute s'est instauré dans l'esprit des gens. Ce qui a fait qu'à un moment donné, le doute a été balayé, c'est que la vie que menait Louis XIV avec Madame de Maintenon à Versailles était une vie quasiment de couple.
Alors là, à ce moment-là, les pamphlétaires se déchaînent. Vraiment, elle est très mal vue, Madame de Maintenon, à l'époque. Je cite un des pamphlets, par exemple. « Le roi se retira à Marly, et d'amant, il devint mari. Il fait ce qu'on doit à son âge, c'est du vieux soldat le destin d'épouser sa vieille putain. » Bon, ça, c'était un pamphlet anonyme, mais il y a quelqu'un qui n'était pas du tout anonyme, qui détestait Madame de Maintenon. C'était, enfin, maintenant, Madame Louis XIV, si on peut dire. C'était la princesse palatine, la belle-sœur de Louis XIV, qui la traitait de sorcière, vieille guenipe, ripopée, hypocrite, qui accorde la dévotion avec ses voluptés, ordure du roi. Alors évidemment, on comprend qu'avec de tels mots, elle préfère franchement ne plus vivre ou de vivre le moins possible à la cour et se consacrer à côté de Versailles, à Saint-Cyr, à ce dont elle était le plus fière, à un projet elle a obtenu le consentement de Louis XIV.
Il avait fini par accéder à ma requête de fonder une institution pour accueillir et éduquer les jeunes filles pauvres de la noblesse. Rien n'était alors si négligé dans le royaume que l'éducation des filles. Saint-Cyr fut notre enfant.
Alors, mademoiselle, quel est votre nom?
Marthe d'Absolu de Gabastou.
Mon père ne sait que seul Jean va combler les grands.
Arrêtez ça!
Mademoiselle, bientôt vous parlerez toute la même langue. Il n'y aura plus de différence entre vous. À présent, vous êtes toutes de la même maison, de la même province et du même royaume.
Cela fait un mois que je suis ici. J'apprends le français que je ne savais pas et j'oublie le patois que je savais. Répétez.
Alors Saint-Cyr, qui était à l'époque une école pour jeunes filles, hein, ce n'était pas encore l'école militaire qu'elle deviendra plus tard, ça c'était un grand projet de Madame de Maintenon, dont elle était très fière, comme Louis XIV d'ailleurs, hein, en 1685. Au fond, il s'agit d'aller chercher les filles de la petite noblesse qui parlaient encore le patois pour leur apprendre tout simplement le français.
Au départ, Saint-Cyr, c'était une histoire assez simple. En fait, des dames de l'aristocratie viennent voir Madame de Maintenon et lui disent, voilà, il y a un couvent à Paris qui a fermé, faute d'argent. Et on se retrouve avec des jeunes filles qui viennent de la noblesse, qui sont pauvres, et on ne sait pas quoi en faire, en fait. Alors, on a ouvert une maison, et on va essayer de poursuivre la tâche d'éducation qu'on avait commencée. Et Madame de Maintenon, au départ, s'y intéresse d'assez loin. Elle le donne de l'argent, il faut obtenir des bourses. Et puis, elle, je crois qu'elle s'est prise au jeu. Donc, il y a eu plusieurs maisons successives, à Rueil, au château de Noisy, et puis Saint-Cyr, après, qui a été spécialement construit pour accueillir ces jeunes femmes. Et je crois qu'il y a plusieurs choses en Saint-Cyr. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a la tâche d'éducatrice pour laquelle elle s'est prise au jeu, avec des résultats d'ailleurs qui ne sont pas négligeables, puisqu'il y avait une sorte de pédagogie un peu nouvelle qui était intéressante dans ce projet. Mais Saint-Cyr, c'est aussi un peu l'assurance retraite de Madame de Maintenon. Oui. C'est-à-dire qu'elle vit toujours avec cette idée qu'éventuellement, elle n'est qu'une favorite, elle n'est qu'une maîtresse, et même si elle a épousé le roi, elle peut se retrouver disgraciée du jour au lendemain.
Alors Saint-Cyr, c'est 1685. Mmh. On l'oublie toujours, elle a passé ensuite 30 années de sa vie avec Louis XIV, épouse morganatique, c'est-à-dire sans le titre de reine, hein, avec Louis XIV. C'est assez extraordinaire, ces rapports qu'ils ont entretenus. On dit souvent, Éric Le Nabour, qu'elle a joué un rôle considérable. Alors certes, Saint-Cyr, c'est son œuvre, mais est-ce que c'est elle, par exemple, qui est à l'origine, parce que c'est vrai qu'elle était devenue très dévote, hein, celle que les pamphlets appelaient vieille putain. En fait, en réalité, elle va, les fêtes à Versailles, qui vient à peine d'être utilisée par la cour, ça, il y en a de moins en moins, le roi lui-même tombe en dévotion de plus en plus. Ça, c'est vrai qu'elle a joué ce rôle. Est-ce qu'elle a joué aussi un rôle politique? On dit souvent, par exemple, on dit parfois en tout cas, que c'est elle qui aurait inspiré à Louis XIV la plus sinistre au fond de ses décisions, c'est-à-dire la révocation de l'édit de Nantes en 1685.
Alors là, je crois qu'il faut vraiment mettre les choses au point à ce niveau-là. On a beaucoup prêté et trop d'influence aux maîtresses royales, notamment celles des Bourbons, que ce soit Louis XIV, Louis XV, et pour Louis XVI, pour ce qui est de l'influence de sa femme Marie-Antoinette. Or, c'était des rois qui étaient plutôt hermétiques, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hermétiques à toute forme d'influence. Donc, s'il y a eu influence quelconque, il a fallu que ce soit très subtil, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que Madame de Maintenon a poussé Louis XIV à prononcer cet édit de révocation de l'édit de Nantes en même temps.
D'autant plus qu'elle avait été protestante.
Elle avait une tendresse quand même, gardé une tendresse pour les protestants, hein, vu qu'elle avait été élevée en partie par une tante qui était protestante, qu'elle aimait énormément. Mmh. On voit mal comment elle aurait pu l'encourager à ça. Et de toute façon, même si elle l'a fait, Louis XIV était assez grand pour prendre ses décisions seul. Et il était, je vous dis, assez hermétique à toute influence. De même que, par exemple, pendant la longue guerre de la fin du règne de succession d'Espagne, elle entretient des relations avec la princesse d'Isursin, qui est à la cour à Madrid. Ce sont des relations épistolaires où on donne des conseils, des avis, on discute de la situation, mais en aucun cas, ça ne peut faire figure de diplomatie parallèle ou autre. Donc je pense que l'influence de Madame de Maintenon a été beaucoup plus limitée qu'on ne le pense au niveau politique.
Enfin, elle jouait quand même, elle a vécu avec le roi comme ça pendant 30 ans, mariée au roi. On dit même, d'ailleurs, vous dites même que leurs relations sexuelles ont continué très très longtemps
jusqu'à
après.
La fin.
C'est-à-dire quand même qu'elle était âgée. Hein.
Oui, elle avait dépassé 70 ans.
Alors, il est mort en 1715, elle est morte elle-même 4 ans plus tard, à Saint-Cyr, bien sûr, où elle s'est réfugiée. Un peu oublié. Il y a une scène pathétique que vous racontez. En 1794, très longtemps après sa mort, il y a des révolutionnaires qui vont chercher son corps là où il est enterré à Saint-Cyr et qui le mettent en morceaux. C'est incroyable.
Ouais, on ne voit pas d'ailleurs pourquoi les révolutionnaires s'en sont pris à elle. Parce que
c'était la femme de Louis XIV.
Je pense que c'est plus effectivement un symbole qu'autre chose. Les dernières années de la vie de Louis XIV, Madame de Maintenon, bon, on a toujours cette image de la cour vieillissante avec une espèce de chape de plomb qui pèse sur elle, où tout le monde est confié en dévotion. Il faut quand même se rappeler que c'est pas Madame de Maintenon qui a décidé ce genre de choses, c'est que simplement la France vivait une période extrêmement difficile à l'époque. On est en pleine guerre de succession d'Espagne, il y a la révolte des Camisards dans les Cévennes, le trésor est vide. Il y a aussi une succession de morts dans la famille royale qui vont intervenir, qui attristent l'ambiance de la cour à cette époque-là. C'est pas Madame de Maintenon qui a imposé un rythme et une atmosphère à la cour par elle seule.
La marquise de Maintenon que l'on retrouve dans votre biographie, Éric Le Nabour, qui paraît demain, je crois, aux éditions Pygmalion, un livre vraiment passionnant. On apprend des tas de choses. Vous avez pu entendre des extraits des films L'Allée du Roi de Nina Companès, d'après le livre de François Chandernagor, avec Dominique Blanc dans le rôle de Madame de Maintenon, est disponible en DVD chez France Télévisions. Et puis également un extrait de Saint-Cyr de Patricia Mazui avec Isabelle Huppert en DVD chez Universal. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Julien Chabassu et Thomas Robin, Claire Destacan, Emmanuel Fournier, Franck Oliver et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain dans 2000 ans d'histoire, le sujet qui était prévu lundi dernier, une histoire de l'opéra.